Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'anarchie, le rendez-vous qui vous transporte dans l'univers captivant de l'architecture où nous explorons le rôle essentiel qui joue l'image. Je suis Xavier Lepenec, fondateur d'XLP Studio, une agence spécialisée dans la réalisation de perspectives pour les architectes et les promoteurs. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'architectes qui partagent leur histoire, leur inspiration et nous racontent comment ils utilisent la magie d'image. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place aux artistes. Chers auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Thibaut Muller. Bonjour Thibaut.
Bonjour Xavier.
Bienvenue dans la tête d'anarchie. Thibaut, vous êtes architecte. Vous dirigez l'agence d'architecture qui s'appelle N01 Architecture avec votre associé Olivier Poula et qui existe depuis 2020, c'est bien ça?
C'est exact.
Super, on va démarrer ce podcast en parlant de votre parcours. Pouvez-vous nous décrire votre parcours et ce qui vous a donné envie de devenir architecte?
Oui, je vais parler personnellement. J'ai tendance à penser que ça date de mon enfance. Contrairement à beaucoup de confrères, je ne suis pas issu d'une famille d'architectes et j'ai pas baigné dedans, mais pour autant, j'avais des parents qui cherchaient désespérément une maison à acheter. Je les accompagnais tous les week-ends. Je crois que c'est quelque chose qui m'ennuyait énormément. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas dans ces visites. Je pense que j'ai dû me prendre au jeu, certainement, sans le vouloir, à être confronté régulièrement à ce genre de visites. Après, concernant le parcours, c'est un parcours d'une certaine manière assez classique. Je suis passé par un bac scientifique. Alors, pas forcément avec un très bon dossier. À la sortie du bac, j'ai postulé dans différentes écoles. Je suis même allé voir en Belgique, à Bruxelles. Et finalement, j'ai été mis en liste d'attente à Clermont-Ferrand. Et donc, j'ai été accepté à Clermont-Ferrand. Donc, j'ai fait ma première année là-bas. C'était vraiment très intéressant. Cours de licence, je suis revenu à Strasbourg. Ensuite, j'ai continué mes études à Strasbourg et j'ai eu la chance d'être sélectionné en master pour faire un an en Australie. Ah. Pour le coup, mon dossier était un peu meilleur que celui de mon bac. Et donc j'ai complété une année mes études en Australie, où j'ai pris conscience que tout était inversé, que en dehors de rouler à gauche, le soleil était au nord et non plus au sud. C'est quelque chose qui m'a bouleversé quand j'ai appris ça. On est dans l'hémisphère sud, donc tout s'inverse. Il y a quasiment pas de pont thermique, on isole pas, donc je me suis confronté à une architecture tropicale, mais dans laquelle on se protège énormément du soleil. Après ça, je suis revenu à Strasbourg finir mes études et mon diplôme d'architecte.
Merci beaucoup pour ce récit, ce beau parcours, cette belle aventure. On va parler maintenant des débuts de votre agence. Pouvez-vous nous partager les moments clés qui ont conduit à la création de votre agence d'architecture?
Oui, bien sûr. Après mon diplôme d'architecture, j'ai été chef de projet pendant 5 ans dans un cabinet strasbourgeois dans lequel je travaillais sur de grosses opérations de bâtiments publics. Ça allait du gymnase à des centres aquatiques, et cela sur différentes phases. Et je pense que j'avais toujours au fond de moi cette envie de pouvoir créer ma propre structure, même si ça me semblait inatteignable. Et finalement, c'est en 2017 que j'ai pris la décision de créer ma structure. Alors au début, j'ai d'abord travaillé seul. Je répondais à de petites commandes privées qui allaient principalement de l'ordre de réaménagement d'appartements. C'est des projets que j'obtenais de bouche à oreille. Et par la suite, il y a Olivier, mon associé d'aujourd'hui, qui m'a rejoint. Il avait également d'autres perspectives de carrière et on a commencé à collaborer ensemble. Alors toujours pareil sur de petites opérations. Il s'est passé 2 ans et je pense qu'on a eu une envie commune à un moment de pouvoir toucher plus de personnes et de revenir à la commande publique. Je pense qu'au fond, on a toujours eu tous les deux un grand intérêt pour le collectif et cette envie d'offrir plus et évidemment au plus grand nombre. Et c'est quelque chose qui nous plaît dans les marchés publics.
Génial. Merci de nous avoir partagé ce parcours, la création d'une agence qui est toujours une aventure. Comment décririez-vous votre philosophie en matière d'architecture?
Alors, avec mon associé, on aime à dire qu'on encourage les gens à penser différemment afin qu'ensemble nous construisions une vie plus belle. Pour nous, cette phrase elle résume beaucoup de choses. En effet, un projet, c'est avant tout une relation avec un maître d'ouvrage. Il y a des envies, il y a des aspirations. Et il y a évidemment pas d'architecture sans commanditaire. Sans client, pas d'architecture. D'où, pour nous, cette construction de faire les choses ensemble. Après, on a eu des clients privés qui sont venus chez nous avec des plans déjà dessinés. Bien ou pas, c'est même pas la question. Mais on estime que notre force, c'est pas de réaliser un projet ou un dessin qui est déjà réalisé, mais de trouver la solution et la réponse la plus adaptée à des besoins. Pour nous, c'est vraiment primordial de comprendre les personnes qu'on a en face de nous, de trouver les réponses, qu'elles soient spatiales, techniques, économiques. Et souvent, ça peut se traduire par chambouler des idées reçues. C'est parfois, et ça même, je pense, c'était parfois déroutant pour nos clients de devoir penser à des choses différemment. Mais pour le moment, dans la grande majorité des cas, c'est toujours très bien accepté et les personnes ne souhaiteraient pas revenir en arrière.
Bah, génial. Très belle philosophie, hein, c'est ça, c'est penser le projet pour proposer une solution à ceux qui vont y vivre dedans. Est-ce qu'il y a un projet que vous avez réalisé qui vous tient particulièrement à cœur?
Oui, alors je pense assez naturellement au Centre technique municipal d'Erlisheim. Alors c'est un chantier qui est en cours. Et alors pourquoi ce projet-là? Très certainement parce que c'est le premier appel d'offres publiques qu'on a remporté chez N01. Et j'aime beaucoup ce projet parce que alors c'est un bâtiment à vocation industrielle. Un atelier municipal, en fait, c'est un bâtiment où on va stocker le sel de déneigement, on va faire les réparations de la commune, on va stocker la citerne pour arroser les plantes. Ben voilà, il y a une véritable vocation industrielle. Et c'est souvent des bâtiments qu'on voit en périphérie commune, dans des boîtes un peu métalliques, décontextualisées. Et on a vraiment voulu le travailler de manière différente, c'est-à-dire qu'on a voulu travailler les qualités des espaces, offrir des circulations généreuses, une lumière naturelle qui vient du Nord, celle des artistes, qui permet de travailler dans les meilleures conditions. On a travaillé sur là conjointement avec nos bureaux d'études et notre bureau d'études structure KPM sur des principes d'arches en béton qui renvoient quasiment à un imaginaire presque mystique ou religieux. On est assez convaincus, avec mon associé, on estime que c'est pas parce qu'on fait un bâtiment industriel où on stocke des tracteurs qu'on doit négliger la qualité des espaces. Bien au contraire, il y a des utilisateurs, il y a de l'humain qui va venir travailler dans ces bâtiments, souvent dans des conditions pas faciles, des périodes hivernales où il va falloir aller déneiger les routes. Bon, ben, on arrive dans des conditions difficiles. Et ben, pour nous, on considère que ces personnes-là, elles ont également le droit d'avoir des espaces de travail optimales et agréables. Et si ça peut les aider pour avoir une vie plus facile, pour nous, c'est l'essentiel. Donc, c'est un chantier qui est en cours. C'est Olivier qui est aux commandes et qui transpire tous les mardis. Livraison prévue cet été. Donc, voilà. On est impatients de le voir fini.
Bah oui, très beau projet. Merci de nous l'avoir si bien décrit. Quelles sont les difficultés que rencontre une agence d'architecture pour emporter des projets de concours, selon vous?
Répondre à un appel d'offres du type concours se fait sur dossier, dans lesquels on juge généralement les capacités, les moyens, le chiffre d'affaires d'une agence. Mais il y a également quelque chose qui est primordial, c'est les références. Et la référence est souvent l'élément qui fait la différence dans la sélection lors de ces procédures. Et c'est extrêmement difficile pour une jeune agence sans référence de rentrer dans un cercle d'une certaine manière fermé. Donc pour moi, je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est cette présélection.
Ouais.
Dans des concours, généralement, on arrive souvent, on a des retours de dossiers. On sait qu'il peut y avoir 40, 50, 80, voire 100 dossiers.
Ah ouais.
Ce qui est énorme. Et une fois qu'on est sélectionné, généralement, les équipes invitées à concourir, il en reste plus que 3 à 5. Suivant les communes, c'est de 3 à 5. Donc, on peut considérer qu'en fait, une présélection, c'est à niveau égal. C'est une chance sur 50. Et une sélection à un concours, c'est toujours pareil, à niveau égal. Ce qui est un peu fictif. C'est une chance sur 3. Donc, la grande difficulté dans ce genre de procédure, pour moi, c'est la présélection. Et en France, la particularité d'avoir le concours qui est restreint et donc rémunéré. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu obligatoire. Alors, il y a pas mal d'années, je pourrais pas te dire quand. Mais c'est ce qui rend la présélection d'autant plus difficile. Alors que dans d'autres pays, comme la Suisse, le concours est ouvert. Donc en gros, pas de rémunération. Enfin, pas tous, mais la plupart. Il n'y a pas de rémunération, mais tout le monde peut concourir. Donc c'est intéressant d'un pays à l'autre. Il y a des modes de sélection différents. Et j'ai en tête le centre Pompidou à Paris. Ouais. À l'époque, il a été lancé en 1970 dans le cadre d'un concours ouvert, donc non restreint. Et de mémoire, il y avait plus de 680 propositions et une équipe lauréate qui était Rogers et Piano. Les architectes avaient 28 et 32 ans. C'est incroyable. Enfin, c'est dingue. Aujourd'hui, je sais pas si ça existe encore un architecte qui a 28 ou 32 ans qui sort un bâtiment tel que le Pompidou. Mais c'était une procédure qui était différente. Mais ils l'ont fait. Comme quoi.
Oui, c'est vrai qu'il y a du positif et négatif dans chaque pays. C'est bien de pouvoir comparer. Merci de nous avoir apporté cette vision. Dans ce podcast, on aime bien parler aussi d'image. Est-ce que l'image, la perspective est importante pour votre agence?
Alors oui, évidemment. Pour nous, l'image est un outil formidable. L'image, elle est partout. On l'a sur les réseaux sociaux, on l'a dans la publicité. Et elle échappe évidemment pas à l'architecture. C'est une technique qui remonte à l'Antiquité et qui a évolué dans le temps jusqu'à la modélisation 3D qu'on connaît. L'avantage de l'image, c'est que c'est un outil qui est accessible à tous. Tout le monde peut comprendre une image, mais tout le monde ne sait pas forcément lire un plan, une coupe, une élévation, un détail technique. Ce qui la rend très intéressante, c'est qu'elle offre une facilité d'accès. Mais en même temps, elle n'explique pas tout. Elle ne remplacera pas un plan, elle ne remplacera pas une coupe ou un détail. Mais pour nous, c'est un outil qu'on utilise en fait souvent dès le démarrage des études et qu'on aime bien continuer à développer. Alors on le travaille de manière en interne avec nos propres outils. Alors c'est pas forcément des images forcément de très bonne qualité, mais ça permet de montrer ce qu'il faut montrer. Et après, dans le cadre de concours dans lequel on répond, on démarre des 3D et après on travaille avec des partenaires, des perspectivistes qui eux ont une maîtrise évidemment plus poussée pour rendre l'image toujours plus réelle. Et pour nous, ce travail, il est extrêmement important parce que c'est pas juste appliquer des textures, de la lumière, mais c'est véritablement de comprendre le projet, les enjeux. Et je pense que tu pourrais certainement en parler bien mieux que moi. Mais ça devient vraiment pour nous, en fait, un travail à la fin de main dans la main qu'on essaie de faire avec le perspectiviste qui est pour nous un regard différent, une expertise qui permettra de donner vie au projet. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est primordial, en tout cas dans le cadre d'un concours.
Ah, merci pour cette belle description. Moi, je préfère que ce soit l'architecte qui mette en valeur l'image en disant vraiment que c'est important, plutôt que moi de le dire, qu'en suis convaincu. Donc, tu as fait une super description de ce qu'est l'image dans sa globalité, de l'importance. Comme je dis souvent, moi, ce qui est important avec les clients, c'est de faire une belle image. Ça se fait à deux, ça se fait pas tout seul, nous. On a besoin de vous. Et vous avez un œil en tant qu'architecte qui est hyper important. Et c'est pour ça que ce podcast, on met en avant l'architecture et l'image. On va reparler maintenant d'architecture. Merci encore. Y a-t-il un bâtiment ou un architecte en particulier qui vous a inspiré?
Il y en a évidemment beaucoup. Je pense qu'avant d'être architecte, il y a des bâtiments qui m'ont évidemment inspiré. Je pense à l'Opéra de Sydney. Je pense au Guggenheim de Bilbao. C'est des bâtiments avec des géométries improbables. Et si on veut faire le parallèle à l'image, c'est des bâtiments qui sont devenus des emblèmes, presque des icônes de pays. On pense à Sydney, on a tous en tête le profil de l'opéra, tout comme la Tour Eiffel en France, vous voyez. Enfin, ça, c'est quelque chose que tout le monde a dans la tête. Mais je pense que l'architecte ou le bâtiment qui m'a le plus inspiré en tant qu'étudiant, et peut-être encore maintenant, ce sont les thermes de Valls, en Suisse, de Peter Zumthor. Alors, c'est un bâtiment qui est ancré dans la pente, telle une carrière. Et pour moi, c'est un bâtiment incroyable parce qu'il y a un travail sur la lumière, il y a une matérialité, il y a une déambulation avec des cadrages qui sont époustouflants. Il y a une véritable poésie du lieu et c'est un bâtiment, étant donné que c'est les thermes, quand on a la chance d'aller le visiter, c'est vraiment un bâtiment qui se vit. Donc, c'est un bâtiment qui me marque toujours énormément.
Merci beaucoup. Je pense que grâce à toi, on ira tous voir l'image de ce beau projet. On va continuer de parler d'architecture. Quelles sont les tendances actuelles en architecture qui vous passionnent le plus?
Personnellement, j'ai pris pour habitude de méfier des tendances et je pense qu'avec mon associé, on n'est pas guidé par des dogmes. On essaie d'être attentif au monde actuel, à ses enjeux et prendre cela comme de la matière pour nourrir nos projets. Et entre autres, je pense qu'on est assez attentif. Enfin, en tout cas de plus en plus à l'économie de matière, par exemple, dans nos projets, le réemploi, les matériaux biosourcés qui sont de plus en plus mis en avant. Alors, je pense à la paille, le bois, la terre. On n'a rien inventé, évidemment, hein. Il y a beaucoup de techniques qui sont ancestrales, mais qu'on a eu tendance peut-être à oublier et qui ressortent maintenant un peu au grand jour là avec les défis environnementaux d'aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, on essaie d'être attentif et de les décrypter pour voir leurs avantages et les inconvénients. Et voir de quelle manière on peut les réutiliser, en tout cas, dans nos projets.
Merci pour cette belle description. Quand on pense au futur, on pense forcément à la planète, l'écologie. T'as commencé à en parler un peu, mais comment intégrez-vous les préoccupations environnementales dans vos conceptions?
Bon, la réponse peut paraître un peu bateau, il y a des choses un peu classiques. Déjà, dans l'implantation d'un bâtiment, évidemment, on va réfléchir aux orientations, à la course du soleil. Rien qu'en réfléchissant avec le soleil, on peut gérer aisément des apports thermiques l'hiver pour le chauffer quasi gratuitement. Et avec des bons dispositifs, on peut arriver à réduire ces apports thermiques. Donc déjà, c'est quelque chose qu'on réfléchit évidemment en amont de nos études. Mais autrement, pour revenir sur le sujet environnemental, il y a des sujets qui nous intéressent particulièrement et qu'on a développés, c'est la captation et le stockage des eaux de pluie. Par des gestes assez simples, on peut résoudre des problèmes actuels de maintenant. Tous les étés, on entend dans la presse communes qui sont confrontées à des sécheresses. Ce problème, il est maintenant, il est même pas demain. Et dans le projet dont je te parlais tout à l'heure, le centre technique municipal qui est actuellement en chantier, c'est un projet sur lequel on s'est intéressé à ce sujet très en amont au démarrage des études et on a mis en place une cuve de récupération des eaux de pluie de 60 mètres cubes. Alors c'est une vraie citerne et on l'a souhaité hors sol. Alors tout d'abord pour minimiser son impact, mais également pour revendiquer une posture de la commune. Il y avait une réelle volonté de mise en avant, en tout cas de démarche environnementale. Alors il y a encore d'autres choses qu'on a mis en œuvre sur ce projet, comme des panneaux solaires, mais en tout cas c'est des éléments qu'on a souhaité mettre en avant comme une vitrine de ce que sont les ambitions de cette commune. Mais en tout cas voilà, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et à côté de ça, il y a un sujet aussi sur lequel on est confronté actuellement, c'est le réemploi. Alors on entend beaucoup parler du réemploi.
Oui.
On a été lauréat récemment d'un concours pour une halle couverte dans un petit village alsacien. Alors on est dans un contexte historique et on vient d'être un cœur d'îlot, donc des bâtiments 1900 où on n'arrivait pas forcément, alors sans grand intérêt, mais on n'arrivait pas à leur redonner une double vie. En tout cas, c'était le constat du maître d'ouvrage. Et on cherche en fait à réutiliser le plus de matières premières, tout d'abord pour limiter l'empreinte carbone de ces nouvelles constructions. Mais en même temps, on a l'intime conviction qu'on peut créer une âme supplémentaire à ce nouveau projet en ayant la matière existante du site. Donc voilà, c'est un sujet qui est pas évident parce que le réemploi amène après des sujets en termes d'assurance, en termes de maintien dans le temps. Donc il faut tester les matériaux, surtout si on veut les réutiliser dans un but structurel. Mais c'est un sujet en tout cas sur lequel on s'y confronte, on essaie en tout cas de le mettre en œuvre.
Bah, merci beaucoup pour la description de tout ça. Je pense que moi, comme les auditeurs, on a encore appris beaucoup de choses. Et oui, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Thibaut, pour ce moment d'échange autour de l'architecture et l'image. J'espère que les auditeurs ont passé un bon moment en nous écoutant. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes dans l'univers captivant de l'architecture dans la tête d'un archi. Merci beaucoup, Thibaut, et à très
merci
bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt.
Au revoir.
Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à le partager en le taguant, en t'abonnant ou à lui attribuer la note de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Si tu souhaites échanger, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, hashtag dans la tête d'un architecte podcast. Un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un archi. D'ici là, restez inspirés.